Et il y aura 3 P au menu de notre club cet après-midi pour parler porno, pourboire et pygmée. Je vous présente mes invités et leur sujet dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, une étoile super géante rouge.
Oui, elle s'appelle Bételgeuse. C'est l'étoile la plus grosse en apparence de notre ciel et elle s'apprête à exploser. Du coup, les astronomes la surveillent et publient cette semaine de nouvelles photos. On en parle avec l'astronome Pierre Kervella.
Qui sera en ligne depuis le Chili. Stéphanie Texier réalise cette tête au carré qui a été préparée par Chantal de Montagny avec Benoît Tonson.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Porno, pygmée et pourboire au menu de notre club tout à l'heure avec mes invités que je salue, Amélie Beaumont, Sonia Zanad, Alain Froment et Vincenzo Susca. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Bienvenue. Amélie Beaumont, vous êtes sociologue et vous êtes devenue groom dans un grand hôtel parisien afin d'étudier, entre autres, la question des pourboires. L'art du pourboire, est-ce que c'est une quasi-science ?
Pour les employés, ils essayent en tout cas faire ça au mieux.
Pour récolter le plus d'argent possible.
Exactement, ouais. Essayer de faire des techniques au plus élaborées possible.
Vous avez scruté les règles et la hiérarchie dans ces grands hôtels parisiens, on en parle avec vous dans un instant. Alain Froment, vous êtes anthropologue et médecin et vous publiez pour The Conversation France un article sur la taille des pygmées pour expliquer pourquoi ils sont si petits. Est-ce que les nouvelles générations sont plus grandes ou pas ? Est-ce qu'ils prennent quelques centimètres ?
Non, c'est une question de génétique. Et le travail, qui n'est pas si futile que ça, hein, pourquoi les pygmées sont-ils petits ? Ça consiste à étudier justement les mécanismes de croissance chez l'homme et également les mécanismes d'adaptation à l'environnement.
Sonia Zanad, vous nous présenterez l'article tout à l'heure.
Absolument. Hein,
puisque vous êtes au service culture de The Conversation France. Et puis Vincenzo Susca, vous êtes sociologue et vous publiez chez Libère avec Claudia Timonelli « Pornoculture, voyage au bout de la chair ». Pourquoi ce terme de pornoculture au lieu de pornographie, tout simplement ?
Parce que le porno n'est plus lié à l'écriture, on n'est plus quelque chose de niche, marginal, nocturne, mais c'est quelque chose qui devient de plus en plus la matrice de notre culture.
Ouais, on va voir ça avec vous, effectivement, on verra que ça s'est répandu absolument partout aujourd'hui et on se retrouve dans un instant pour découvrir vos différents sujets avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent. Et si nous remplacions notre Soleil par l'étoile Bételgeuse, toutes les planètes jusqu'à Jupiter seraient englouties, Saturne serait constamment léchée par ses éruptions de matière et de nouvelles images de cette surprenante géante rouge située à 600 années-lumière de la Terre viennent d'être publiées. Il s'agit des images les plus précises d'une étoile autre que notre Soleil, obtenues grâce au télescope ALMA situé dans le désert chilien, le désert d'Atacama. Et c'est en direct avec vous que nous allons en parler. Vous êtes au Chili, Pierre Kervella. Bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris, avec nous également en studio, Philippe Hénarejos. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu.
Rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Pierre Kervella, le travail que vous publiez ici avec ces images sont issus d'observations que vous menez depuis maintenant 2015. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez particulièrement à cette super étoile Bételgeuse ?
Alors, Bételgeuse est une étoile extrêmement intéressante pour plusieurs raisons. D'une part, parce que c'est une étoile qui est extrêmement grande, donc elle représente un peu un extrême de l'état des étoiles. Et puis, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas sur cette étoile-là, et en particulier la manière dont elle perd de la matière. On sait que ces étoiles-là perdent régulièrement de la matière, mais on a du mal à l'expliquer physiquement comment la matière peut s'échapper de l'étoile.
Ce qui est très frappant quand on regarde les photos que vous publiez cette semaine, c'est la forme qu'a Bételgeuse. Elle n'est pas ronde du tout. On ne s'attend pas à ça d'une étoile d'un premier abord.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Alors, le disque apparent de l'étoile est essentiellement sphérique, mais il y a des irrégularités à sa surface. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'attendait pas à ce niveau, hein, disons, ce niveau de déviation de la symétrie sphérique. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas tout à fait symétrique.
Et on a posté d'ailleurs la photo de Bételgeuse sur le Facebook de la Tête au Carré, hein, Axel, pour nos auditeurs qui peuvent aller la consulter et voir cette jolie patate,
hein, oui, on peut dire patate.
Qui ressemble à un soleil en patate, un petit peu.
Alors, quelles sont les particularités d'une super géante rouge comme Bételgeuse ?
Une super géante rouge, d'abord, c'est une étoile qui est assez massive. On pense que Bételgeuse fait à peu près 15 fois la masse du Soleil. On n'est pas absolument sûr, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur. Et puis, surtout, elle est très très grande. Elle fait plus de 1000 fois la taille du Soleil aux longueurs d'onde visibles. Hein. C'est-à-dire, si on pouvait la voir, elle serait 1000 fois plus grande que le Soleil. Aux longueurs d'onde qu'on a utilisées avec le radiotélescope ALMA, elle est encore plus grande que ça. Elle fait à peu près 1300 fois la taille du Soleil. Donc c'est un objet qui a une taille absolument remarquable dans le domaine des étoiles. Et voilà, c'est une propriété particulièrement importante de ces objets supergéants. Donc.
Philippe Hénarejos, une question pour vous.
Oui, alors, ce que... Comment ça?
Non, vous avez une question pour notre invité, peut-être.
Oui.
Non, pas du tout.
Bon, alors, c'est moi qui vais vous la poser. Ces nouvelles images que vous publiez, Pierre Kervella, qu'est-ce qu'elles montrent? Est-ce que vous faites des recherches particulières avec? On parlait de l'explosion tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Alors, ce type d'image que nous avons obtenue nous permet de cartographier la température de la surface de cette étoile. Parce que l'intensité lumineuse qu'émet l'étoile dépend de la température locale sur la surface de cette étoile. Donc, en connaissant cette carte de température, on a accès à un petit peu donc aux irrégularités et on cherche à savoir comment elle perd sa matière. Et donc, la température est un paramètre absolument essentiel dans ce phénomène-là.
Philippe Hénarejos, alors cette étoile, on en a déjà parlé avec vous d'ailleurs dans l'émission, elle est particulièrement intéressante, c'est vrai. Hein ?
Oui, alors c'est pas la première fois qu'on la photographie. Mm-hmm. Il faut savoir que c'est une étoile, une supergéante rouge, c'est sans doute la plus proche ou une des plus proches de ces étoiles-là. Donc en taille apparente, elle est énorme. Et il faut voir que toutes les étoiles dans le ciel apparaissent comme des points. Enfin, jusqu'au début du XXe siècle, c'était le cas. Les télescopes avaient beau être gros, avaient beau avoir des forts grossissements, on ne voyait que des points, parce qu'elles sont très loin. Et celle-là, comme elle est très grosse et qu'elle est relativement proche, dès le début du XXe siècle, on a réussi à mesurer sa taille. On ne la voyait pas, c'était pas une photo, c'était avec le premier interféromètre, une machine un peu barbare qui permet de reconstituer la résolution maximale. Et il y a à peu près 21 ans, il y a même exactement 21 ans, le télescope Hubble avait fait le premier cliché de la surface de cette étoile, c'est-à-dire qu'on ne la voyait plus comme un point. C'est la première étoile qu'on n'a plus vue comme un point, mais comme un disque, un peu comme quand on regarde le Soleil. Donc on a commencé à pouvoir l'étudier. Et déjà, sur la photo de Hubble, on voyait qu'elle n'était pas régulière. La surface avait des zones plus claires que d'autres, etc. Et là, sur ces photos-là, alors il y en a eu d'autres entre-temps, il y a d'autres interféromètres qui ont fait d'autres photos, on voyait toujours une surface irrégulière. Et sur cette photo-là, on voit aussi une zone brillante qui est là. Alors, j'avais posé avant l'émission la question à Pierre Kervella, lui demandant si ces zones brillantes, c'est toujours la même qu'on voyait. Il semblerait que non. Donc, on peut commencer en l'observant régulièrement, à suivre l'évolution de ce qui se passe à la surface de cette étoile. Et c'est très intéressant parce que, comme on l'a dit au début de l'émission, Betelgeuse est une étoile qui arrive en fin de vie qui va exploser en supernova.
Elle est en train de mourir sous nos yeux,
voilà.
Au fond. Pour dire que
peut-être ce soir, alors ce serait pas de chance parce qu'on peut pas la voir bien en ce moment, mais peut-être que ce soir elle va exploser en supernova et qu'elle sera aussi brillante que la pleine lune et qu'on pourra la voir en plein jour. Alors on la verra en plein jour puisque c'est l'été et que c'est une étoile du ciel d'hiver. Mais en tout cas, le fait de pouvoir suivre comme ça une candidate supernova va quand même permettre de comprendre la physique qui s'y passe. Ouais. En observant différentes longueurs d'onde, on observe à différentes profondeurs de l'atmosphère de cette étoile qui est beaucoup moins dense que le Soleil. Vous voyez, elle fait 1000 fois son diamètre, mais elle fait que 15 fois sa masse. Donc, imagine que la densité, c'est quand même pas... Enfin, on pourrait enfoncer le doigt facilement, vous voyez. Donc, c'est très intéressant de suivre ça. Et je crois que les observations avec ALMA vont se poursuivre justement pour continuer à voir ce qui se passe à la surface de cette étoile.
Alors, Pierre Kervella, ça veut dire que vous attendez qu'elle explose, c'est ça?
Ah oui, alors c'est vrai qu'on aimerait beaucoup qu'elle explose. Hein. Ça serait un spectacle d'abord extraordinaire pour tout le monde, mais aussi pour les astronomes. Ça nous permettrait de vraiment comprendre comment ces étoiles très massives explosent, parce qu'on ne sait pas non plus très bien comment elles explosent en supernovae. Donc alors, ce soir, c'est peut-être un peu optimiste de penser qu'elle va exploser ce soir. On pense que dans les prochains milliers d'années, elle va exploser. Mais bon, il faut aussi garder à l'esprit qu'elle ne présente aucun danger hein, pour la Terre. Même si elle explose en supernova, elle ne va pas ravager le système solaire. Mais ça serait un spectacle absolument extraordinaire à voir, tout à fait.
On peut la voir de la Terre ou pas, Philippe?
On la voit très bien à l'œil nu. C'est une des étoiles les plus brillantes du ciel. Simplement, c'est plutôt une étoile d'hiver. Donc, il faut voir à partir du mois de novembre jusqu'au mois de mars, en début de nuit, milieu de nuit. À l'été, ben, il faut attendre à la fin du mois d'août, la fin de nuit, elle se lève à l'est. Voilà. Ouais.
Mais si elle explosait ce soir, qu'est-ce qu'on verrait, nous, depuis la Terre?
Alors, on devrait la voir. Alors, du coup, elle n'est pas très bien observable la nuit. Hein. C'est, ouais. Elle est dans le ciel le jour, en même temps que le soleil, mais on verrait un point, un brillant.
C'est tout
le jour, dans le ciel bleu. Ouais. Ben, c'est quand même une étoile qui serait visible en plein jour. Il n'y en a qu'une à ce jour, je vous rappelle. C'est le soleil.
C'est pas si mal.
Celle-là est quand même à 640 années-lumière.
Absolument. Merci beaucoup, Pierre Carvala, pour vos précisions et pour ces clichés. Donc magnifique, hein, qu'on vous doit, et qui sont sur le Facebook de la Tête au Carré pour voir Betelgeuse, donc cette étoile extraordinaire. Et puis on vous souhaite un bon séjour dans ce merveilleux désert d'Atacama où vous vous trouvez, et vous êtes bien chanceux. Merci beaucoup à vous. Et puis Philippe Hénarejos à la rentrée, on se retrouve bientôt.
Eh bien oui, à la rentrée.
Et bonnes vacances Axel Villard.
Et merci Mathieu, bonnes vacances.
On se retrouve le 28 août, je crois.
On fera ça avec une de la science.
Profitez bien de cet été.
Merci.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, deux études publiées simultanément confirment les dangers des pesticides néonicotinoïdes pour les abeilles. Présentées par la revue Science, ces travaux, dont l'un était financé directement par les firmes Bayer et Syngenta, ont des conclusions similaires. Les abeilles exposées aux pesticides, soit dans des champs tests, soit en pleine nature, ont vu leur capacité passer la saison d'hiver et à maintenir l'activité de leurs reines. Tout cela donc en diminuant, un impact négatif et une colonie globalement affaiblie dans tous les cas, même si la publication sponsorisée arrive à des conclusions moins alarmistes. De nouvelles preuves donc qui arrivent au moment crucial où la Commission européenne doit statuer sur le sort de ce pesticide. La NASA vous propose de l'observer, le cœur d'une météorite fondre au moment de son entrée dans l'atmosphère terrestre depuis l'incident de Tcheliabinsk en 2013, où une météorite de la taille d'un bus s'est décomposée au-dessus de l'ouragan. La NASA a décidé d'étudier de manière fine le phénomène, ce moment où la roche du météore chauffée par l'atmosphère se liquéfie puis s'évapore en gaz. Une vidéo des simulations faites par la NASA à l'aide de supercalculateurs a donc été dévoilée hier. Et vous pouvez d'ailleurs la voir, cette vidéo, sur la page Facebook de la Tête au Carré. Et puis pour terminer la saison et pour pallier le manque de science, eh bien vous pouvez assister au premier festival de paléontologie en France qui aura lieu à Villiers-sur-Mer, samedi et dimanche 8 et 9 juillet, organisé par le Paléospace Festival. Le festival s'adresse aux familles, aux amateurs de paléontologie. Au programme de cette première édition, fossiles, dinosaures et compagnie, avec des expositions, des films, des jeux de plein air et des conférences. Toutes les infos sur le site du Paléospace, donc si vous êtes aux alentours de Villiers-sur-Mer. Allez, le club dans un instant.
Sur l'étoile, soir se lit. Fixe la lune en équilibre, tendresse son âme. Et dans le club, leur danse la triste. Quand lui s'élance le disotiste. Quand passe l'heure qu'il espère. Qu'il enlace et qui prend son âme. Celui qui désespère, un peu comme lui, si sincère. S'ils écoutent enfin en frère la même musique, quelqu'un vers qui tendrait son âme. Insistait à le faire descendre, lui résistait. Le feront descendre s'ils insistent. Verront s'épandre un volcan triste, cendre et love. Le sommet penché, il pique. Solides sont les allées publiques. Contre l'âme, les voix cognent et les coups des femmes. Attendez cela. Attendez cela.
Swann, The Atlas Mountain, avec Tendre et l'âme.
La tête au carré. Le club.
1, 2, 3, inspiration, petit pas de pause. 1, 2, 3, expiration. Et on expulse bien tout l'air qu'on a dans les poumons, hein, d'accord? Et si vous voulez augmenter votre vitesse, eh ben vous n'avez qu'à allonger le pas. D'accord, Mathieu?
Avec Mathieu Vidard, sur France Inter.
La pornoculture, la science du pourboire et la taille des pygmées au menu de notre club. Donc cet après-midi, vous pouvez bien sûr nous rejoindre avec vos messages et vos questions en direct sur franceinter.fr. Et le mot-clé, l'attaque. Amélie Beaumont, on va commencer avec vous. Vous êtes doctorante en sociologie et en sciences politiques à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et vous êtes devenue groom dans un grand hôtel parisien pour comprendre les règles non écrites du métier. Et vous vous êtes intéressée entre autres au pourboire et à la classe pour étudier l'argent et la position sociale chez les employés de l'hôtellerie de luxe. Pourquoi avoir choisi ce sujet ?
L'hôtellerie de luxe, ce qui m'intéressait, c'était d'étudier un endroit où on allait avoir dans un même lieu en fait des gens avec des profils sociaux extrêmement différents. Donc à la fois les clients qui font partie de l'élite économique et sociale, et puis de l'autre côté des employés qui vont du plongeur, de la femme de chambre, au directeur d'hôtel, mais qui dans l'ensemble sont des employés aux origines sociales plus modestes.
Donc il fallait vous faire engager pour un stage, c'est ça ?
Tout à fait.
Dans un milieu où les femmes sont peu représentées, dans ce métier particulier de groom d'ailleurs.
Oui. À la loge, c'est un milieu très masculin, qui est historiquement très masculin, mais qui s'ouvre de plus en plus aux femmes. Et donc, j'ai effectivement réussi à me faire embaucher en stage comme groom dans un hôtel. Et pour une durée originale de 5 semaines. Et après, je me suis fait embaucher en CDD. J'ai poursuivi un peu.
Alors, on ne pourra pas donner le nom de l'hôtel, évidemment, que vous gardez confidentiel, mais vous êtes tombé dans le top du top, c'est-à-dire les 5 étoiles luxe, hein, a priori, les grands palaces parisiens, effectivement. Vous avez avancé masqué ou vous vous êtes déclaré sociologue en arrivant là-bas ?
J'ai dit que j'étais sociologue. J'étais en master au début de l'enquête. Et donc, j'ai dit que je venais faire un stage pour mon master. Et puis, en sociologie. Donc, j'étais à couvert simplement. Je pense que les objectifs, et puis moi-même, je ne savais pas encore exactement ce que je voulais trouver. Donc,
c'est ça. Mais voilà, vos confrères savaient que potentiellement, ils pouvaient être un petit peu observés par votre œil de sociologue ou pas ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Ils me demandaient d'ailleurs souvent mon avis.
Vous avez travaillé pendant plusieurs semaines dans ce palace. Donc l'idée, c'était à la fois d'étudier donc, la hiérarchie, vous venez de nous le dire, et puis le cas très spécifique du pourboire, hein, qui a fait l'objet d'un article d'ailleurs pour Le Monde.
Oui, alors ça m'est apparu au fur et à mesure. En fait, c'est bête, mais je n'avais pas réalisé au début qu'il y aurait des pourboires. Ça m'était sorti de l'idée.
Et en fait, c'est bien quand on est stagiaire de pouvoir avoir des pourboires.
Oui, au début, je n'étais pas payée, donc les pourboires, c'était sympathique pour ça. Mm-hmm. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est très présent au quotidien et ça fait l'objet de discussions. Enfin, voilà, s'il y a des enjeux autour des pourboires.
Ça fait l'objet de discussions, c'est-à-dire que c'est vraiment un enjeu très, très important dans cette confrérie de grooms.
Oui, enfin, pas particulièrement pour les grooms, enfin, pour l'ensemble de la loge, mais les réceptionnistes en ont aussi, tous les gens qui sont dans la restauration, dans l'hôtel. Donc, c'est comme dans plein d'autres professions dans des services en fait. Mais...
Ouais. Alors quelle est la hiérarchie justement dans un grand hôtel parisien comme celui où vous avez travaillé ?
Alors il y a beaucoup de services, il y a 3 principaux services dans un hôtel qui sont la restauration, l'hébergement et le service technique on va dire, l'administration. Et donc du coup là au sein de l'hébergement, moi j'étais donc dans le service de la loge dans lequel il y a les concierges qui sont en haut de la hiérarchie, ensuite les voituriers, les bagagistes et les chasseurs grooms qui sont deux professions distinctes mais qui sont réunies en une seule dans cet hôtel.
Ah oui, donc il y a vraiment des métiers très très particuliers où chacun a des tâches ultra définies.
Tout à fait. En fait, dans l'hôtellerie de luxe, il y a environ 3 employés pour une chambre, ce qui est un ratio très très important. Ouais. Ça fait à peu près 300 employés pour 100 chambres, ce qui fait que il y a des divisions entre les différents métiers qui sont très précises. Quoi.
Alors, cette idée de pourboire, alors comment ça fonctionne ? Parce que vous avez étudié les tactiques, hein, qui consistent évidemment à faire ouvrir le portefeuille au client, hein, quand même.
Voilà, exactement. En fait, c'est dans une tradition en sociologie du travail qui essaie de regarder comment les employés de service essayent de travailler avec des humains et comment ils ont tout un tas de tactiques pour les amener à faire ce qu'ils ont envie qu'ils fassent. Mmh. Donc, essayer de récupérer un petit peu de pouvoir, en quelque sorte, dans la relation. Et donc, on observe tout un tas de tactiques, comme pour les taxis ou les serveurs ou quoi. Par exemple, essayer de montrer son travail au client. Alors, dans l'hôtellerie luxe, on essaye de... Il faut pas qu'on voit trop les travailleurs travailler, parce que le service doit être un peu masqué en quelque sorte, parce qu'il est dû au client. Mais en même temps, il faut qu'il le voit pour qu'il puisse se dire « Ah, il y a un service qui a été rendu, donc je vais le récompenser par un pourboire. »
Ouais. Donc tout est dans la finesse quand même, évidemment, parce que dans ce type d'établissement, il faut y aller feutré quand même, avec beaucoup de délicatesse.
C'est ça, on peut pas arriver avec ses gros sabots, effectivement. Ah, donc c'est des tactiques très subtiles, où on va attendre un petit peu plus longtemps devant la porte au moment où on finit de donner les bagages, par exemple. Mais on ne peut pas attendre une minute en attendant, en croisant les bras.
Bien sûr.
Voilà, donc il faut attendre quelques secondes, mais
savoir quand partir.
Voilà, exactement, gérer le temps.
Alors, la question du pourboire, elle est évoquée très directement par la direction de ces grands palaces, ou finalement c'est quelque chose qui se fait comme ça, parce que c'est une tradition. Comment les directions de ces grands hôtels envisagent cette problématique?
Alors, en fait, moi, j'ai pas de discours de la direction sur les pourboires directement, mais pour autant, il y avait, historiquement, disons que ça a été notamment un argument pour faire que les salaires soient bas, en fait, dans ce type de profession-là. Mmh. Donc, là où il y a traditionnellement des pourboires, les salaires étaient plus bas. Parce que la direction misait sur le fait que, en gros, les clients allaient payer en partie les employés, quoi.
Alors, parmi les tactiques, vous expliquez dans l'article, justement, qu'il faut donner du temps aux clients.
Ouais.
C'est surtout ça qui compte pour avoir le plus de pourboires possible.
C'est ça, donner du temps, donc essayer de leur donner l'occasion de sortir leur portefeuille et puis de trouver la somme adaptée, enfin qu'ils ont envie de donner. Et donc pour ça, il y a tout un tas de petites tactiques qui permettent effectivement d'attendre les quelques secondes qui vont permettre justement cette sortie.
De voir arriver le petit billet dans la poche.
Et donc par exemple, on peut essayer de prévenir à l'avance le client qu'on va lui rendre un service pour qu'il sache qu'il y a un employé qui va arriver dans la chambre par exemple. Et donc là, c'est l'idéal, comme ça ils peuvent préparer le pourboire. Hors de la vue de l'employé et pas être en train de trifouiller dans leur portefeuille.
C'est ça. Vincenzo Susca, vous qui êtes sociologue également, donc on voit vos thèmes de recherche qui sont évidemment très, très éloignés, mais sur la méthode, c'est intéressant de voir comment on travaille là.
Et tout à fait, mais là je voulais savoir s'il y a un partage avec les confrères ou bien si le pourboire reste personnalisé.
Dans l'ensemble, c'est partagé en fait. Donc, ça, c'est en fonction des sous-services, donc concierge, bagagiste, voiturier, chasseur groom. Chacun partage différemment. Mais il y en a qui partagent par shift, ce qu'on appelle. Donc, c'est-à-dire ceux qui commencent à 7h et qui finissent à 14h vont partager tant qu'ils sont deux, par exemple, ils partagent ce qu'ils ont là. Et dès qu'un nouvel employé arrive, ils font la caisse, ce qu'ils appellent. Donc, c'est-à-dire ils partagent ce qu'ils viennent d'obtenir sur les 3 premières heures, par exemple. Et puis ensuite, ils vont commencer à faire une nouvelle caisse où ils vont être 3 employés, par exemple. Dès qu'il y en a un qui part, ils font la caisse à nouveau. Et voilà. Et donc, ça fait comme ça sur la journée.
Alors, vous allez nous dire dans un instant qui sont les plus généreux et si on gagne vraiment beaucoup d'argent grâce à ces pourboires. Mais avant ça, on va écouter un extrait d'une émission qui s'appelle Numéro 1, qui était diffusée à la télévision en 1976 avec Roger Pierre et un sketch sur l'école des grooms de Paris.
Deuxième exercice, l'étude du pourboire. Il faut savoir recevoir un pourboire. Attention, messieurs, on reçoit un pourboire. Un trop petit pourboire, un beau pourboire, un très beau pourboire, un gros pourboire, un énorme pourboire, un pourboire princier, un roi du pétrole. Enlevez-vous, on ne peut pas aller plus bas.
Voilà, il y a une hiérarchie aussi au niveau du pourboire, finalement,
oui,
vous voyez. Alors, qui sont les plus généreux dans les grands palaces parisiens, finalement?
Alors ça, c'est l'objet de tout un travail de la part des employés pour essayer de déterminer à l'avance combien va donner tel client.
Voilà, pour repérer les bons payeurs.
Voilà. Et donc, il s'appuie sur plusieurs indices, mais un de ceux-là qui est le plus connu, c'est celui de la nationalité. Mmh. Et donc, les Américains sont notoirement connus pour donner plus de pourboires, puisqu'ils ont l'habitude, en fait, de donner des pourboires chez eux, aux États-Unis. Alors que au Japon et en Chine, c'est considéré comme méprisable de donner un pourboire.
Culturellement, donc, on ne donne pas de pourboire dans ces pays-là. Les Français sont plutôt généreux ou pas en moyenne?
Variable, ça c'est pour le coup, il y a pas de théorie principale. Disons que c'est pas les plus généreux. Ils sont pas considérés comme les plus généreux. Mais après, il peut y avoir des clients habitués qui du coup sont connus des employés et vont donner plus de pourboire.
On peut vraiment gagner beaucoup d'argent. Est-ce qu'un groom, par exemple, peut sensiblement augmenter son salaire grâce au pourboire?
On peut. Les grooms, c'est ceux qui gagnent le moins, en fait. C'est ceux qui sont le plus en bas de la hiérarchie. Et la hiérarchie, en fait, que je vous ai dit tout à l'heure, des employés, et aussi la hiérarchie des pourboires. Donc, c'est les concierges qui en gagnent le plus, puis les voituriers, puis les bagagistes, etc. Mais on peut quasiment doubler son salaire
dans
les bons mois. Oui,
combien vous avez gagné, vous, Amélie, pendant ce stage?
Moi, malheureusement, j'ai pas eu énormément de pourboires. J'ai eu une journée à 60 euros de pourboire, quand même.
Et c'était beaucoup pour vous?
Oui, pour moi, c'était la meilleure journée. Ouais.
Et alors, il y a des histoires qui circulent entre personnel, justement, des grands hôtels pour dire, moi, j'ai reçu un pourboire de 500 euros par un émir arabe qui est venu, qui a été très généreux.
Tout à fait, mais du coup, c'est toujours l'objet de... Enfin, ça va être discuté, mais pas forcément de manière très ouverte, parce que ça peut aussi créer des conflits au sein des personnels.
Ouais.
Donc, quand c'est partagé, c'est plus facilement discuté que du coup, parfois, il peut y avoir des conflits quand même.
Il y a une transmission entre les différents membres du personnel, justement, pour acquérir la bonne tactique et être le plus efficace possible.
Tout à fait. C'est ça qui est dans le service où j'étais, il y avait vraiment tous les âges, et donc il y avait vraiment une transmission intergénérationnelle des manières de se comporter vis-à-vis des clients, et puis en fait toute la culture du métier qui est très importante, qui est transmise aux jeunes, et ça marchait assez bien en fait.
Qu'est-ce qu'ils font de leur argent alors finalement, c'est ces membres du personnel là, qui gagnent plus ou moins, en tout cas beaucoup plus que leur salaire souvent?
Ouais, ben en fait moi ça m'intéressait particulièrement parce que je m'intéresse en fait à la socialisation par le travail des employés, donc c'est-à-dire essayer de comprendre qu'est-ce qui au travail est intégré à leur être social en quelque sorte. Et donc ce qui m'intéressait c'était de voir si les pourboires étaient dépensés d'une manière spécifique qui pouvait faire écho à ce qu'ils vivaient au quotidien dans l'hôtel. Et en fait je me suis rendu compte qu'effectivement ils avaient pas mal de dépenses en termes de consommation.
De goûts de luxe
entre guillemets, mais des consommations en tout cas de bars et de restaurants plutôt haut de gamme, des choses comme ça. Faire des cadeaux de plutôt généreux aussi à leur famille, à leurs proches, c'est une manière aussi
donc une sorte d'imprégnation quand même du milieu dans lequel on travaille et qui rejaillit ensuite sur la façon dont on dépense son argent. Vincenzo Susca, pour terminer, une dernière question.
Dans l'imaginaire du luxe, aujourd'hui, il y a une sorte d'idéologie de la bonne humeur. Il faut toujours sembler heureux. Est-ce que, du coup, vous forciez à sourire, à être de bonne humeur, ou bien parfois aussi, on peut aussi être un peu sincère et la sincérité est appréciée par les clients?
Alors ça c'est justement quelque chose de très compliqué parce qu'il y a toute une standardisation en quelque sorte de la manière dont les employés doivent être vis-à-vis des clients parce que ça fait partie des standards d'un hôtel de luxe. Quand on va dans un hôtel de luxe, on doit s'attendre en tant que client à trouver des personnels qui sont aimables, qui sont souriants effectivement. Donc il y a une obligation en quelque sorte de bonne humeur, ce qu'on appelle un travail émotionnel. Et en même temps, effectivement, il y a certains employés qui considèrent que il vaut mieux être sincère avec les clients et engager une discussion un peu au-delà de ce sourire un peu forcé, obligatoire. Mais c'est toujours là, c'est quelque chose qui est aussi à voir avec la direction et le management, comment gérer ces enjeux de discussion avec la clientèle.
Voilà ce travail donc Amélie Beaumont, le pourboire et la classe, qui a fait l'objet d'un article dans Le Monde assez récemment, et on avait envie de vous entendre nous en parler aujourd'hui dans le club. Vous restez avec nous dans un instant, on va parler de la taille des pygmées avec notre invité anthropologue Alain Froment.
Your private door to my just a strange discord resolved.
Soothing avec Laura Marling.
La tête au carré. Le club.
Alain Froment, vous êtes anthropologue, médecin, directeur de recherche à l'IRD et vous signez pour le site The Conversation France un article sur la taille des pygmées. Sonia Zanad, vous travaillez pour le service culture, c'est un sujet qui vous a intéressé justement. Hein,
ouais. Exactement, c'est un article qui a été publié aujourd'hui sur notre site et qui expose la méthodologie qui permet de comprendre les caractéristiques de la croissance chez les humains en s'appuyant sur l'exemple de la population de Baka, des Baka pardon, qui sont des pygmées du Cameroun. Finalement, en observant leur taille à la naissance et la courbe de croissance qui est la leur au cours des deux premières années de leur vie, on peut déterminer quelles sont les caractéristiques générales de la croissance chez les humains, extrapolées, ces deux premières années étant déterminantes chez l'espèce humaine. Et ce qui est passionnant dans cet article, c'est qu'il y a eu une comparaison entre deux populations de pygmées, donc celle des Baka au Cameroun et leurs cousins plus à l'est de l'Afrique équatoriale, et en constatant que finalement, les uns viennent au monde avec une taille réduite et les autres, finalement, c'est une évolution qui se fait au cours de ces deux premières années de croissance dont j'ai parlé. Donc, finalement, on arrive à un même objectif qui est s'adapter à la forêt équatoriale, mais à partir de deux évolutions différentes.
Vous n'avez plus rien à nous expliquer, hein, Froment, finalement, on sait tout sur cet article à découvrir sur The Conversation France. Il est en lien, évidemment, sur la tête au carré. Vous travaillez depuis combien de temps sur les pygmées, exactement?
Moi, ça fait une bonne trentaine d'années, en tout cas, que je travaille au Cameroun, donc pas que chez les pygmées. Mais il s'agit d'une population qui est intéressante à beaucoup d'égards. Hein, leur relation à l'environnement, leur futur, leur insertion dans la modernité, qui intéresse les sociologues. Mais moi, qui suis un biologiste, effectivement, ce qui m'a intéressé, c'est pourquoi sont-ils petits? Autrement dit, pourquoi y a-t-il dans l'espèce humaine des peuples de grande taille et de petite taille?
Ce sont vraiment les plus petits du monde?
Alors c'est même la définition même du mot pygmée, puisque ça vient du grec, c'est une légende hein, qui remonte à Homère, mais qui veut dire haut de une coudée. Donc vous voyez, le coude plus la main, un peuple légendaire qui faisait une trentaine de centimètres et qui combattait les oiseaux.
Oui. Alors ils sont un peu plus grands que ça quand même.
Alors oui,
dans la
c'est
réalité,
simplement que les premiers explorateurs, donc après 1860, qui sont arrivés en Afrique centrale, voyant des peuples d'assez petite taille, se sont référés au mythe ancestral. Et finalement, ce mythe leur colle un peu à la peau.
Oui. Alors, où habitent-ils? Parce qu'en fait, on évoque toujours les pygmées d'Afrique, mais on ne sait pas bien les localiser. Alors, parce qu'on en trouve dans plusieurs pays africains. Hein.
Dans de nombreux pays. En gros, il y a deux groupes. Le groupe occidental qui serait Cameroun, Gabon, République centrafricaine, Congo-Brazzaville. Ouais. Et le groupe oriental qui serait République démocratique du Congo et qui va jusqu'au Rwanda et au Burundi. Ouais.
Mais il y a eu des échanges entre ces différentes populations de pygmées ou pas?
Assez peu, c'est-à-dire qu'on a pu retracer l'histoire génétique des peuples d'Afrique centrale d'ailleurs. Ce qui nous a déjà étonné, c'est que les ancêtres des pygmées ont divergé des ancêtres non pygmées il y a 70 000 ans, c'est très ancien. Mm-hmm. C'est à peu près l'époque où les hommes modernes quittent l'Afrique pour coloniser l'Europe. Donc en Europe, à cette époque-là, il n'y a que des hommes de Néandertal. Et la divergence entre le groupe occidental et le groupe oriental remonte à peu près à 20 000 ans, ce qui constitue en fait une relation avec l'évolution climatique de la région, où la forêt d'Afrique centrale s'est fractionné en deux.
Oui.
C'était l'époque glaciaire en Europe, donc il faisait très froid. En Afrique, il faisait très sec. Les refuges forestiers se sont fractionnés. Et donc, le groupe pygmée ancestral s'est divisé en deux. Et après, ils ne se sont pas reconnectés.
Oui. Où vivent-ils alors, justement? Plutôt dans la forêt?
Alors, ce sont certainement les peuples les mieux adaptés à la forêt. Donc, ils ont développé beaucoup de stratégies, non seulement pour la chasse, mais aussi pour la collecte de milliers d'espèces végétales comestibles.
Mmh.
Et évidemment, il y a un certain nombre de menaces sur l'environnement qui font qu'ils ont un peu de mal à survivre. Alors, ils ne sont pas menacés d'extinction en tant que tels, parce qu'en fait, leur vitalité démographique est importante, mais leur mode de vie traditionnel
oui.
est pratiquement déjà disparu. Ce sont des gens qui ne font plus exclusivement la chasse et la cueillette, mais qui se sont mis à l'agriculture.
Ouais. Est-ce qu'on les voit sortir beaucoup, justement, de la forêt pour investir d'autres milieux plus urbains, pour le coup?
Alors, peu, c'est-à-dire qu'il y a quelques individus qui sortent, qui vont à l'école, qui vont à l'université,
ouais.
il y en a quelques-uns, et puis qui peuvent aller en consultation en ville comme guérisseurs, par exemple.
Mmh.
Mais leur habitat reste rural.
Sonia Zanad.
Oui, les ONG alertent aussi beaucoup sur le racisme dont ils sont victimes, parce que j'ai vu que les parcs nationaux du Cameroun ont été créés sur leur terre, en fait, sans leur consentement.
Alors déjà, ils sont accusés, plus ou moins juste titre, hein, de braconnage, puisqu'ils prélèvent sur les espèces vivantes, et notamment les espèces protégées, une partie pour leur consommation, ce qui ne peut pas leur être reproché, mais une partie pour la revente. Donc la politique de plusieurs parcs nationaux, c'est d'exclure complètement les populations locales.
De chez eux, donc.
De chez eux, voilà. Et par ailleurs, il y a un racisme qui est absolument féroce. C'est-à-dire qu'il y a des endroits en Afrique où on considère que ce sont des chimpanzés parlants. C'est peut-être dans le monde la population la plus discriminée.
Ouais.
Et ils le savent très bien. Donc, c'est quelque chose qui nous interpelle aussi, y compris du point de vue biologique, c'est-à-dire pourquoi la diversité humaine, comment s'explique-t-elle et quels sont les fondements du racisme.
Alors, pourquoi sont-ils aussi petits, les pygmées? Que nous dit la génétique des populations à ce sujet
et... Voilà, on a voulu faire une étude très fondamentale de génétique et d'endocrinologie, le pourquoi et le comment. Donc, pour le comment, il fallait avoir des enfants pygmées d'âge connu. Et souvent, bon, les pygmées sont en brousse, en forêt, donc les femmes n'accouchent pas dans les dispensaires. Mais on est tombé au Cameroun sur une cohorte d'enfants pygmées qui était enregistrée depuis la naissance, plus de 1000 enfants. On les suit tous les ans pour construire un modèle de courbe de croissance. Donc déjà, on a une idée précise de la façon dont ça se passe.
Mmh.
Ensuite, on a essayé de décoder, du point de vue de la génétique et surtout des mécanismes endocriniens, comment ça se passait. On sait que l'hormone de croissance est normale, mais ce sont d'autres facteurs de croissance qui sont impactés
oui.
et qui ont été sélectionnés génétiquement. Ça, c'est donc le comment ça se passe, de devenir petit ou de devenir grand. Après, le pourquoi, c'est certainement un avantage adaptatif.
Pourquoi alors?
Et bien, comme le disait Sonia, on a pu comparer notre propre étude avec l'étude qu'un Américain avait fait il y a une vingtaine d'années, avant en fait que cette zone de l'Ituri, qui est aux confins de l'Ouganda et de la RDC, ne devienne complètement chaotique et interdite aux chercheurs. Et lui avait pu observer des trajectoires de croissance qui étaient différentes de celles qu'on a observées. Donc, dans notre groupe de Baka, des enfants qui sont de poids et de taille standard à la naissance, et un ralentissement assez net au bout de 2 ans.
Donc ils naissent à peu près à la même taille ou même poids qu'un autre enfant africain, et c'est après en fait qu'on observe un ralentissement de leur croissance.
Alors il y avait une petite brève de comptoir amusante qui concerne les nains, où on disait les nains sont normaux à la naissance, c'est en grandissant qu'ils rapetissent.
Ouais.
Eh bien les pygmées Baka sont normaux à la naissance et ralentissent leur croissance à un certain moment.
Mmh.
Donc c'est le mécanisme qu'on a essayé de décoder. Alors que dans le groupe oriental, ils sont déjà petits in utero, et donc ils continuent une croissance qui est décalée par rapport au standard.
Pourquoi cette différence entre les deux alors?
Alors, l'avantage adaptatif d'être petit fait que dans deux populations qui ont une histoire génétique différente, la sélection a fait que le résultat soit le même, même si les voies pour y arriver étaient différentes.
On va vous écouter sur le terrain, extrait d'un documentaire Pygmée Baka, Le Grand Virage, pour mesurer justement, c'était l'objet de ces recherches.
Alors, 515.
515.
310.
310.
La hauteur de l'épine iliaque. Là, c'est la limite entre l'omoplate et l'humérus. Membre supérieur, 628.
628.
Voilà, donc ça c'est sur le terrain. Dans quel pays vous étiez là à
Donc c'est chez les Baka du Cameroun, où on fait ce qu'on appelle de la biométrie, c'est-à-dire qu'on mesure les enfants, non seulement leur taille, mais aussi tous les segments corporels, pour comprendre la croissance des jambes, des bras, etc., qui aboutit à une taille adulte, qui n'est pas extrêmement minimale, hein, qui est de l'ordre de 1m58 chez les Baka, 1m53 dans d'autres populations, dans l'Itouri un peu moins d'1m50.
Donc ça, c'est la moyenne, voilà, pour les hommes comme pour les femmes.
En 10 cm de moins pour les femmes.
Ah oui, quand même, oui. Ouais. Et vous me disiez tout à l'heure en antenne, beaucoup de maladies et une espérance de vie ultra courte.
Alors, une espérance de vie chez les Baka, malheureusement, qui n'est que de 24 ans.
24 ans, c'est inouï, quand même.
Oui, on a analysé un fichier qu'un père missionnaire avait récolté sur 7000 individus. Et c'est dû à une très forte mortalité infantile, ouais, à cause du poids de la biodiversité, en fait, qui est aussi en forêt la biodiversité des maladies, des parasites. Mmh. Il y a jusqu'à 22 parasites différents. Et donc, les enfants pygmées souffrent d'énormément de mortalité. Mais ça ne veut pas dire, évidemment, que tout le monde meurt à 24 ans. Mmh. Il y a des gens qui sont des grands vieillards.
Sonia Zanad, cet article est à découvrir sur le site de Conversation France.
Exactement, comme tous les jours, retrouver la science par les chercheurs.
Et il est en lien sur le site de la Tête au Carré. Tiens, une petite intro pour nous emmener jusqu'à 15h tranquillement et jusqu'aux vacances de la Tête au Carré. Bien sûr, nous parlerons dans un instant de ce livre Pornoculture, juste après Madonna Holidays. Et nous aussi, nous allons célébrer les vacances dans quelques minutes. Mais avant cela, Vincenzo Susca est avec nous dans le club de la Tête au Carré. Vous êtes maître de conférence en sociologie de l'imaginaire. C'est à l'université Paul Valéry à Montpellier 3. Et vous publiez avec Claudia Timonelli chez Libère, Pornoculture, voyage au bout de la chair. Vous nous dites un mot d'abord de la sociologie de l'imaginaire. Qu'est-ce que c'est exactement?
C'est une manière d'étudier la société à partir des images, des sentiments, de mythes. Donc de ce qui apparemment, de manière invisible, structure notre société.
Mmh. Donc ça, vous travaillez sur quoi? Sur l'inconscient, alors, beaucoup, j'imagine, non?
L'inconscient fait partie de nos sources. Aujourd'hui, parler de l'imaginaire veut dire s'occuper des médias, du cinéma, d'Internet, de nos rêves collectifs.
Mmh. Alors, le porno, vous avez enquêté sur les origines de la généalogie de la culture porno, on peut dire les choses comme ça?
On a essayé de voir qu'est-ce qu'il y a aux racines de ce phénomène culturel.
Et alors, comment on étudie cette question exactement? Et pourquoi est-ce que vous y êtes intéressé? Parce qu'au fond, on est baigné en permanence aujourd'hui dans cette culture pornographique.
Mais en effet, l'idée était celle de comprendre pourquoi aujourd'hui le porno n'est plus ce qu'il était auparavant. Auparavant, c'était quelque chose de caché, privé, nocturne, dont on avait même un peu honte.
Ouais.
Aujourd'hui, il a envahi la scène de la vie publique, de la politique, à la mode, en passant par la publicité. Alors, ce n'est plus quelque chose justement d'underground ou de marginal, mais c'est quelque chose qui nous concerne et nous affecte tous.
Oui, c'est ça. Ça s'est vraiment diffusé absolument partout dans la société et la chose n'est plus du tout taboue, comme elle pouvait être effectivement une certaine période où on cachait vraiment à la fois ses entrées dans les cinémas pornographiques ou les ouvrages qui étaient diffusés sous le manteau. On va écouter d'ailleurs un son de Gina Lollobrigida qui s'insurgeait dans les années 80 contre la pornographie à la télévision.
Parce que quand même, la pornographie, c'était mieux avant. Il y avait des cinémas où des gens impuissants ou fous, on avait besoin de ça. Bon, on payait pour aller voir les films porno. Tandis que maintenant, on est dans l'hôtel, on est là, et tout d'un coup, on voit des spectacles, vraiment. Et tout longtemps.
Il faut vite changer de chaîne à ce moment-là.
Mais c'est vraiment pas nécessaire. Il faudrait faire simplement
des spectacles séparés où les gens qui ont besoin de cette pornographie, on paye pour aller la voir. Mais des gens normaux, on n'a pas besoin de s'exciter avec des vulgarités comme on voit dans Canal+.
Voilà, votre compatriote Gina Lollobrigida, Vincenzo Susca, une petite réaction sur ce qu'elle nous dit du porno qui a été très commenté à l'époque où Canal+ arrivait, hein, on se souvient.
Et déjà, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est Claudia qui le développe dans le livre, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, aujourd'hui, il ne faut plus chercher le porno, mais il faut essayer de l'éviter.
Oui, c'est ça, oui.
Et en plus, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est assez cool de parler de ce genre de sujet. Aujourd'hui, on affiche dans les préférés de nos logiciels, de nos moteurs de recherche, ce genre de sites sans aucun tabou.
Absolument. Et c'est donc une pornification du quotidien dont vous parlez. On en voit absolument partout, en ligne évidemment, sur Internet, dans les magasins, dans le langage aussi. Aujourd'hui?
Mais tout à fait. De le langage commun, ça devient des mots de plus en plus employés. Et en effet, Internet a été le grand déclencheur. Depuis qu'il y a Internet, et notamment le web 2.0, ce genre de désir et de plaisir commence à se diffuser justement parce que le web a permis d'exprimer quelque chose qu'auparavant était un peu plus caché et réservé, a permis d'exprimer certaines affinités connectives.
Ouais, mais il y a vraiment des mots aujourd'hui qui sont issus directement de cette culture porno.
Plutôt que dire qu'il y a des mots qui sont issus de cette culture porno, on peut dire que le porno est de plus en plus dans notre langage.
Ouais.
Hein, et que il influe sur notre comportement. Voyons par exemple la manière de laquelle on utilise des émoticônes, des likes, des corps partout. Voyons l'usage des larmes, de l'émotion, du plaisir, de la joie. Non, avant, le bon bourgeois, le bon individu moderne devait cacher ses émotions et ses sentiments. Aujourd'hui, c'est bien le contraire. Tant dans le marketing que dans la politique, il faut séduire, il faut faire pleurer, il faut montrer la joie, il faut montrer la tristesse. Et c'est une forme de pornification du social.
Ah oui, vous faites vraiment un lien, vous, entre le porno et ces attitudes aujourd'hui que nous avons, plus expansives au fond. Hein.
On croit au fond que le porno aujourd'hui demeure bien au-delà du sexe. C'est cette forme de dépassement de l'individu occidental qui était séparé, qui était rationnel, qui était autonome. Porno aujourd'hui sont toutes les scènes dans lesquelles l'individu, son intimité, sa vie privée se perd dans la vie de l'autre. Toutes ces scènes dans lesquelles la raison laisse la place à l'émotion.
Alors Vincenzo Susca, quand on fait une généalogie dans un domaine particulier, on fait donc de l'histoire puisqu'on remonte aux sources du problème. Et alors là, justement, vous dites qu'au fond, on peut aller assez loin, hein, aux racines du porno et à la Renaissance en particulier, c'est ça?
On peut partir de ce moment-là.
Qu'est-ce qui s'est passé alors à cette époque?
La Renaissance, c'était le premier premier moment de l'histoire, rappelons-nous de l'homme vitruvien de Leonardo, non, dans lequel l'individu se sépare de l'environnement. Ouais. Par la perspective, par le point de vue, par la mathématique, l'individu devient autonome, il devient la mesure de toutes les choses, il devient séparé. Or, si on fait un saut, on n'a pas le temps de développer le sujet, la culture électronique aujourd'hui, justement, va modifier cette configuration, cette condition de l'être humain, et il le met toujours en contact avec l'autre.
Mais, quand l'homme, on est connecté... mais l'homme de Vitruve, qui était cet homme nu, hein, avec ses bras écartés, c'était pas une image pornographique?
Non, c'était pas une image pornographique, justement. C'était le moment dans lequel on séparait l'homme de l'autre, de l'autre social, mais aussi de l'environnement. C'était le moment où, dans lequel l'homme était le centre du monde. La pornoculture, c'est justement la violation de cet espace privé de l'homme de Vitruve. Là où l'homme et l'être humain est toujours entouré par les autres. On est toujours en contact. Les gens s'intéressent de nous, partagent nos photos, rentrent dans notre vie privée et vice-versa. Et c'est une forme de pornification. Justement, c'est l'abolition de cette distance que l'homme de la Renaissance avait créée entre moi et toi.
C'est ça. Et puis il y a une réaction aussi contre l'Église, clairement aussi, dans ces nouvelles manières de faire.
Au départ, non, le porno, pensons à Pasolini, pensons à Sade, c'était une manière d'exprimer une contre-écriture du corps, contre la morale religieuse. Or, aujourd'hui, ayant dépassé en quelque sorte ces cultures, cette sensibilité est en quelque sorte faite pour son plaisir, pour son propre plaisir. Elle s'intéresse plus à choquer qui que ce soit. Elle n'est plus dans la culture de la transgression. Il n'y a plus de transgression. Mais plutôt dans une forme d'expression à la fois joyeuse et ludique, mais aussi tragique.
Ouais.
Tragique parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'apocalypse de l'être humain, presque de la boucherie. Il y a quelque chose de l'ordre de la boucherie aussi.
Ah oui, carrément.
Mais si vous regardez les scènes du porno aujourd'hui, à côté du plaisir, le plaisir est toujours là, il y a beaucoup de violence.
Ouais.
Et il y a quelque chose qui fait mal. Et cela nous rappelle le lien intime entre l'érotisme et la mort.
Ouais. Alors si on remonte plus près de nous, vous faites un lien entre Spoutnik et le porno. Alors c'est quoi le lien entre ce satellite artificiel envoyé par les Russes en 1957 et le porno?
Le Spoutnik a été le premier moment de l'histoire dans lequel l'humanité s'est regardée de l'extérieur d'elle-même en tant qu'acteur. En tant qu'acteur. Et c'était le premier moment aussi dans lequel on a vécu une forme d'interconnexion généralisée. Sans les Spoutnik, on n'aurait pas les réseaux numériques aujourd'hui.
Donc il y a eu diffusion aussi des images à partir de ce moment-là.
En même temps, pour la première fois, l'humanité s'est vue en tant que spectatrice, comme dans le porno contemporain, mais à la fois, elle a vécu une forme d'interconnexion. Donc la vie des autres a commencé à rentrer, à toucher, à influer sur les êtres humains. Et on sait là, on peut dire que c'est le début, en quelque sorte, des réseaux.
C'est le début des réseaux, voilà. Et aujourd'hui, on voit effectivement le succès de la pornographie et des sites porno, hein, qui sont dans les tops des sites les plus fréquentés dans le monde aujourd'hui. C'est YouPorn, par exemple.
Mais aujourd'hui, le mot sexe est le mot plus recherché sur Google.
Ouais.
Et les sites porno, comme YouPorn, Xtube, Xporn, etc., etc., le livre contient une large sitographie, sont les plus importants. Les plus importants. N'oublions pas, celle qui était la racine du mot porno. Porno, en la Grèce ancienne, c'était en fait la narration de la porneia, de la prostituée.
Ouais.
Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous vivons une forme de prostitution généralisée de la société.
Comment ça va évoluer, selon vous ?
Et la différence est aiguë. C'était Karl Marx qui parlait de la prostitution généralisée de la société en analysant la dimension de l'ouvrier. Aujourd'hui, cette prostitution généralisée ne se fait plus pour des raisons d'argent. Personne ne met ses vidéos porno sur le net ou ne partage ses photos intimes pour des raisons économiques. Il y a un échange aujourd'hui, mais c'est un échange symbolique. C'est une communion païenne. Hein. C'est une forme de jouissance collective et connective qui fait qu'on renonce à soi pour l'autre.
Et c'est ce qu'on découvre donc dans ce livre « Pornoculture, voyage au bout de la chair » chez Libère, avec lequel nous terminons cette 11e saison de La Tête au Carré. Merci beaucoup à vous tous. J'aimerais également remercier très chaleureusement Stéphanie Texier qui réalisait l'émission depuis 2 ans et qui va retrouver une nouvelle équipe à la rentrée. Merci pour le sérieux, Stéphanie, avec lequel tu as assuré la direction d'orchestre de notre usine à gaz. Bon vent à toi. Et puis merci également à notre stagiaire Benoît Tonson qui était avec nous et qui a assuré comme une belle fait tout au long de ces semaines passées avec nous. Passez un très bel été. La semaine prochaine à 14h, vous aurez rendez-vous avec Barbara Aznavour, Jacques Brel et Alain Souchon. Reposez-vous bien donc en attendant. On se retrouve lundi 28 août pour la 12e saison scientifique de La Tête au Carré. Très bel été à tous.